Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de Sainte Jeanne d'Arc, canonisée en 1920 par le pape Benoît XV et proclamée patronne secondaire de la France par Pie XI en 1922. Cette glorification de notre héroïne nationale intervient 5 siècles après son passage sur la terre. Serait-ce un pur hasard? Le cardinal Pie faisait justement remarquer que si les saints n'apparaissent pas fortuitement sur la scène du monde, ce n'est pas non plus le hasard qui, après leur mort, détermine l'époque de leur glorification. Alors nous verrons, si vous voulez bien, dans un premier point, la situation de la France au XVe siècle du temps de Jeanne d'Arc, quelle était sa mission à cette époque, et en comparaison, quelle est la situation de la France actuelle, et qu'est-ce que l'on peut attendre de Jeanne d'Arc. Au XVe siècle, les Anglais étaient maîtres de presque tout le nord de la Loire, et la guerre civile faisait rage entre Bourguignons et Armagnac, les deux parties qui se disputaient le pouvoir. Selon un chroniqueur de l'époque, la France était devenue un immense champ de brigandage. Toute forme d'État régulier avait péri. Plus de finances, plus de trésors publics, plus d'agriculture, plus de discipline dans les armées. Les hommes d'armes des deux parties et les nobles eux-mêmes se livraient au pillage, brûlaient les églises, les villages, ravissaient les femmes et les hommes et se livraient à toutes sortes de cruautés. Toute justice était bannie, la mesure du droit était la mesure de la force. Par exemple, pour illustrer, à Paris, 100 000 personnes périrent en quelques mois suite aux ravages des gens de guerre de tous les partis. On enterrait les morts dans des fosses communes pêle-mêle, parce qu'on n'avait pas le temps de leur donner une sépulture correcte. Les loups pénétraient toutes les nuits dans les villes et y faisaient d'affreux ravages. Les plaines du bassin parisien, si fertiles, jusqu'au nord de la France, désertées par leurs habitants, n'étaient plus cultivées. Le dauphin Charles VII perdait bataille sur bataille. Il doutait de sa légitimité. La couronne de France allait passer à l'Angleterre, dont Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère, était le roi. La France était donc sur le point de disparaître. C'est à ce moment que Dieu intervint pour faire connaître sa volonté à la France. Et c'est la mission de Sainte Jeanne d'Arc, qu'on peut résumer ainsi par ses propres paroles. « Je suis celle que le roi du ciel a choisie pour le secours du roi Charles, pour le mener à Reims, afin qu'il soit sacré et couronné. Mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi, parce qu'il est le vrai roi de France. Je suis venu de par Dieu pour faire tenir le royaume au vrai héritier, à celui à qui le royaume appartient. Telle est la volonté de Dieu, et j'ai été choisi pour la faire exécuter. » En intervenant d'une manière si exceptionnelle dans l'histoire de France, Dieu veut nous rappeler que la France est un élément essentiel dans le plan mystérieux conçu par la Providence dans les destinées de l'humanité. La mission de Jeanne n'est pas seulement de délivrer Orléans, de conduire le dauphin à Reims pour être sacré roi et repousser les Anglais hors de France. Sa mission est beaucoup plus haute et intéresse tous les temps. Dieu, en lui faisant connaître le vrai roi, montre sa volonté que la France soit gouvernée par un roi légitime selon la loi salique, telle qu'elle fut interprétée et appliquée lors de la disparition des Capétiens directs. En quoi consiste cette constitution du royaume de France qui prend naissance au baptême de Clovis à Reims? La naissance, selon la loi salique, donne à l'héritier le droit de régner. Mais il ne gouverne et ne prend possession de son trône que le jour où notre Seigneur lui confère le sacre, l'investiture de son royaume. Le royaume n'est pas donné au roi, il lui est confié comme un dépôt sacré, dans le but de le défendre et le gouverner selon les lois du Seigneur. Pour rappeler cette vérité au roi, Jeanne va faire solennellement établir par 4 secrétaires du roi un acte de donation du royaume de France à notre Seigneur par ses mains et le redonner ensuite au roi au nom de Dieu. Cet acte notarié est comme un phare au centre de notre histoire et éclaire la mission de Jeanne résumée sur sa bannière. Faire resplendir la royauté politique et sociale de notre Seigneur Jésus-Christ sur la France et par elle aux autres nations, puisqu'elle est la fille aînée de l'Église. Et on verra 2 siècles plus tard le Sacré-Cœur faire ses annonces à sainte Marguerite Marie, manifester ses volontés qui sont déjà exprimées sur l'étendard de sainte Jeanne d'Arc. Lors de son interrogatoire par les juges à Rouen, Jeanne nous laisse entrevoir le magnifique don qui est fait à la France. Elle parle en effet d'une manière allégorique de la couronne du sacre de Charles VII. Et Monseigneur de la Sue la résume ainsi. Jeanne, dit que la couronne de métal est le signe d'une couronne 1000 fois plus riche qui durera 1000 ans et plus. C'est donc un don qui ne concerne pas seulement le roi Charles VII. Mais il concerne la France directement. Cette couronne surnaturelle symbolise la constitution que Dieu a donnée à la France pour qu'elle remplisse sa mission décrétée par Dieu. Et cette mission, le pape Grégoire IX, au XIIIe siècle, en parle ainsi. Il est manifeste que ce royaume béni de Dieu a été choisi par notre Rédempteur pour être l'exécuteur spécial de ses divines volontés, pour la protection de la liberté et de la foi de l'Église, le châtiment des impies et la défense de la justice. Alors voyons maintenant quelle est la situation de la France contemporaine et quelle serait la mission de Jeanne aujourd'hui. Avec Philippe le Bel, la France avait voulu s'affranchir du pouvoir spirituel. Les conséquences furent terribles, mais Dieu la releva en envoyant sainte Jeanne d'Arc. Cependant, l'Université de Paris et le Parlement, imbus de gallicanisme, s'opposèrent au principe de la royauté chrétienne, au principe de royauté chrétienne rappelé par sainte Jeanne d'Arc. Les rois résistèrent plus ou moins à leur influence. Cet esprit d'indépendance néfaste fut renforcé par l'humanisme de la Renaissance, si bien que la France céda au XVIIIe siècle, en 1789, à la Révolution, à la grande tentation d'émancipation de tout pouvoir. Et cette tentative d'émancipation s'acheva avec la séparation de l'Église et de l'État en 1905. En se soustrayant à l'Église et à Jésus-Christ, la France pensait se forger sa propre destinée. Mais c'est oublier que les nations sont l'œuvre de Dieu, et que si elles coupent le lien qui leur donne la vie, elles tombent sous la domination de Satan. La République française incarne cette France indépendante, sans Dieu ni maître, qui ne reconnaît aucun fondement de la société que la nature humaine. Après 100 ans de séparation de l'Église et de l'État, nous commençons à en voir les fruits vénéneux. Vérifiant cette parole du chef des libéraux anglais du XIXe siècle. Du jour où le divorce entre la pensée humaine et le christianisme sera consommé, datera l'irrémédiable commencement de la décadence radicale de la civilisation dans le monde. Nous y sommes. Aujourd'hui, toutes les nations ont rejeté Dieu. Elles tombent sous l'empire de Satan, qui veut reprendre son pouvoir sur l'humanité. Les fruits vénéneux, vous les connaissez tous, ce sont les mauvaises lois, et il y en a beaucoup. Donc Satan veut reprendre son pouvoir et il veut le faire par la grande réinitialisation qui nous est préparée pour les 50 ans à venir, dont nous avons goûté déjà depuis un an un avant-goût de dictature mondiale. Leur but a été clairement exprimé par le premier directeur de l'OMS en 1954. Pour mettre en place un gouvernement mondial, il est nécessaire de retirer des esprits leur individualisme, leur loyauté aux traditions familiales, leur patriotisme national et leurs dogmes religieux. La situation est pire que du temps de Sainte Jeanne d'Arc. À l'époque, la couronne de France allait passer à l'Angleterre. L'ennemi était visible. Aujourd'hui, la France et les autres nations perdent leur souveraineté au profit d'organisations non gouvernementales, les fameuses ONG, qui dictent leur volonté aux États d'une manière insidieuse, et l'ennemi est dissimulé à travers le monde entier. On ne sait pas exactement où il se trouve. Nous voyons se réaliser sous nos yeux ce que Alfred Naquet prophétisait à sa manière au début de la Troisième République. Sur les décombres des patries nivelées se fondra la République des États-Unis de la civilisation, dont la France ne sera qu'un canton. Ce sera l'avènement définitif du Messie humanité. N'est-ce pas ce que nous proposent les dirigeants des ONG ? Un monde globalisé, définitif, une humanité nouvelle, où plus rien ne sera jamais comme avant ? Un socialiste écrivait dans le journal La Révolution en 1878 « Le monde moderne est placé dans cette alternative, ou l'achèvement de la Révolution française, ou le retour pur et simple au christianisme du Moyen-Âge. » On a donc d'un côté Lucifer, par l'intermédiaire des globalistes, qui veut imposer une dictature informatique mondiale pour créer une humanité sans Dieu, en harmonie avec la nature. De l'autre côté, nous avons Dieu, qui veut un retour au christianisme d'une manière encore plus parfaite qu'au Moyen-Âge. Dans les deux cas, plus rien ne sera comme avant. Peut-on raisonnablement connaître comment le christianisme l'emportera ? N'y a-t-il pas des signes avant-coureurs ? Suite à l'abstention record des élections présidentielles de 2017, un sondage fit connaître que 60% des Français ne croyaient plus à la démocratie, mais souhaitaient, pour gouverner le pays, un chef, un roi. Oui, vous avez bien entendu, un roi. Alors, on pourrait faire le parallèle avec la conversion de Joseph Fadel. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien comment s'est passée cette conversion de ce musulman, prince musulman en Irak. Il a d'abord fallu qu'il ne croie plus au Coran. Ensuite, lorsqu'il ne croyait plus au Coran, son âme était prête pour recevoir le christianisme. Et c'est le problème de la conversion des musulmans. Ils ne peuvent pas se convertir tant qu'ils n'ont pas étudié vraiment consciencieusement le Coran et qu'ils le rejettent. Eh bien, on pourrait dire, les Français sont en train de rejeter la démocratie. Donc, ils vont être prêts pour se tourner vers le christianisme. Ne serait-ce pas l'heure où Dieu va agir ? N'est-ce pas le moment favorable pour que Jeanne d'Arc, maintenant à la gloire des autels, patronne de la France, vienne montrer à notre époque ses lumières salvifiques de gouvernement des nations, en restaurant dans les esprits la dignité royale du Fils de Dieu fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le règne du Christ-Roi. Des saints ont annoncé ce retour au christianisme. Et le plus célèbre d'entre eux, c'est Saint Pidis, puisqu'il est, de notre époque. Saint Pidis disait en 1911 aux évêques de France, « Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fonds baptismaux de Reims se convertira, retournera à sa première vocation et portera comme par le passé mon nom devant tous les peuples et devant les rois de la terre. » À la fin du XIXe siècle, la Vierge Marie révéla à une mystique dominicaine du tiers-ordre de Saint-Dominique en Lorraine que la France se convertirait par le rosaire et que la délivrance de la France, délivrance des ennemis intérieurs et des ennemis extérieurs, sa restauration au christianisme serait confiée à Sainte-Jeanne d'Arc. Rappelons-nous que les dons de Dieu sont sans repentance. Ils ont été mis au trésor de la France pour plus de 1000 ans, pour l'accomplissement de sa mission de fille aînée de l'Église. Il ne tient qu'à la France de se tourner vers ce trésor qui lui est préparé. Puisque nous sommes Français et que celui qui se sanctifie élève le monde et est puissant sur le cœur de Dieu, surtout les enfants, alors pratiquons les vertus chères à Sainte Jeanne d'Arc. Et vous spécialement, les enfants qui allez faire votre première communion, vous allez recevoir Jésus pour la première fois, eh bien, il faut que vous imitiez Sainte Jeanne d'Arc dans ses vertus, par sa piété. À Dorémy, Sainte Jeanne d'Arc ne manquait jamais d'assister avec recueillement à la messe, aux autres cérémonies de l'Église. Par exemple, le soir, c'est la coutume, la prière du soir, c'était les complis qui étaient sonnés à l'Église. Mais Sainte Jeanne d'Arc était très fidèle à sa prière du soir. Et un jour, le clerc qui était responsable de la sonnerie des complis avait oublié de sonner à l'heure. Sainte Jeanne d'Arc, elle a été le trouver, elle lui a dit, il faut sonner les complis, c'est l'heure de la prière. Lorsqu'elle était à la guerre, elle faisait chanter des... Lorsqu'elle était à la guerre, son premier souci, lorsqu'elle avait remporté une victoire, c'était de demander aux prêtres de rassembler tout le monde à l'église pour chanter un tédéum. Donc, pensons nous aussi à rendre grâce. Vous allez recevoir Jésus tout à l'heure, vous allez faire votre action de grâce, alors remerciez bien Jésus pour le don qu'il vous fait. La dévotion de Jeanne envers la Très Sainte Vierge. Chaque samedi, quand elle était à Dorémy, elle se rendait avec de pieuses femmes en pèlerinage à une chapelle de la Vierge. Elle faisait brûler des cierges et fleurissait sa statue. Eh bien, vous, en ce mois de mai, faites de même. Allez souvent prier devant la statue de la Sainte Vierge. Fleurissez ses images. À la guerre, elle faisait chanter les soldats. Pas facile de faire chanter des soldats qui sont très rudes. Elle leur faisait chanter des cantiques et des hymnes en l'honneur de Marie. Et enfin, son amour de Jésus Eucharistie. À la Sainte Messe, elle pleurait souvent à l'élévation. Et lorsqu'elle recevait Jésus à la communion, de même, elle pleurait très souvent. Elle demandait toujours de faire célébrer la messe avant un combat. Et elle y communiait pieusement. Enfin, sa pureté. Chers enfants, vous êtes habillés de blanc pour les petites filles, symbole de la pureté. Eh bien, cette pureté, il faut que vous demandiez la grâce à notre Seigneur Jésus-Christ de la garder, voilà, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps, comme Sainte Jeanne d'Arc. Elle prenait beaucoup de précautions pour garder sa virginité d'âme et de corps. Elle ne logeait que chez des dames de grande vertu. À la guerre, elle était parfois obligée de dormir au milieu des soldats, eh bien, elle ne quittait pas son armure, ce qui était pour elle une grosse pénitence. Vous avez vu des armures à l'école, avec des combats de chevaliers. Bah, imaginez dormir dans une armure, c'est vraiment une pénitence. Et l'effet produit par la pureté de Sainte Jeanne d'Arc sur les troupes était immense. Ses compagnons d'armes n'auraient jamais osé tenir des propos malhonnêtes. Sa seule présence faisait s'évanouir les mauvaises pensées et les mauvais désirs. Enfin, sa foi. Tout à l'heure, en allant communier, vous allez croire que c'est vraiment Jésus qui est là présent tout entier dans la petite hostie. Bien, Sainte Jeanne d'Arc avait une grande foi. Le curé de son village a témoigné qu'elle était une fervente catholique. Il n'en avait jamais vu une de meilleure dans sa paroisse. Et les docteurs chargés par Charles VII de l'interroger dirent qu'elle était une bonne chrétienne, une vraie catholique. Et jusqu'au martyr, Jeanne protesta qu'elle était bonne chrétienne. Eh bien vous, il faut que vous restiez de bons chrétiens en pratiquant tous les jours les vertus qu'a pratiquées Sainte Jeanne d'Arc. Soyons donc fiers de notre foi. Soyez fiers de votre foi, les enfants. Pratiquez les vertus de Sainte Jeanne dans la vie concrète en priant le rosaire, en assistant avec piété au sacrifice de la messe, en communion avec recueillement. Maintenant, vous allez pouvoir communier à chaque messe auquel vous assisterez. Alors pensez-y dès la veille. En rejetant de votre vie tout ce qui pourrait nuire à la pureté de vos âmes. Tout cela, bien sûr, pour vous les enfants, comme pour nous les adultes, demande beaucoup de renoncement, une vie de sacrifice, surtout dans le monde actuel. Alors, joignons à cette vie de sacrifice et de renoncement une prière fervente envers Sainte Jeanne d'Arc. Elle incarne le type de la France chrétienne. Demandons-lui la grâce d'obtenir qu'elle accomplisse sa deuxième mission, la restauration de la France chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.